VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Conakry, midi à Niamey. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a reporté d'une semaine au 2 juin les élections législatives et communales prévues initialement le 26 mai. Décision confirmée à VOA Afrique par le président de la commission électorale, Pierre Claver Ndayigagire. Selon la présidence burundaise, le chef de l'État a suivi une recommandation de la commission électorale CENI et répondu aux demandes de l'opposition politique burundaise et de la communauté internationale. Le président Nkurunziza avait auparavant annulé hier soir le message qu'il comptait adresser à la nation, Anne Albertson.
Sans explication, le discours du président burundais sur la radio-télévision nationale a été annulé. Il pourrait avoir lieu ce mercredi soir, mais rien n'est confirmé. Pendant ce temps, le ballet diplomatique se poursuit à Bujumbura. Pierre Nkurunziza a reçu hier le représentant des Nations Unies, Saïd Djinnit, ainsi que deux représentants du panel des sages de l'Union africaine, Edem Kodjo et Ibrahima Fall. Situation sécuritaire, tenue des élections et paysage médiatique burundais, tous les sujets qui fâchent ont été abordés. « Tout est sous contrôle », répète à qui veut l'entendre Pierre Nkurunziza. Dans un message diffusé hier sur Facebook, la présidence burundaise affirme que le gouvernement, ainsi que ses différents services, n'ont et n'auront jamais de plan de vengeance contre les auteurs du putsch.
Pour une analyse de la crise en cours au Burundi, Idriss Fall a joint Léonard Nyangoma, fondateur du CNDD, dont une aile dissidente, le CNDD-FDD, est aujourd'hui au pouvoir à Bujumbura.
Il faut une transition sans Nkurunziza. Nkurunziza est dépassé par les événements. Il est de plus en plus illégitime et même il est déjà illégitime et son mandat se termine le 26 août. Donc il faut une transition consensuelle qui pourrait durer 24 mois par exemple, juste le temps pour restaurer un climat d'apaisement pour que ces centaines de milliers de réfugiés puissent retourner chez eux, pour désarmer les milices du parti au pouvoir Imbonerakure, mais aussi pour organiser ces élections.
Mais Nkurunziza, lui, il persiste et signe apparemment, il veut aller pour son troisième mandat.
Il veut forcer, mais le peuple ne veut pas de lui parce qu'il n'a plus le droit à un autre mandat. Un chef d'État au Burundi, selon notre constitution, n'a droit qu'à deux mandats, et même les accords d'Arusha. Lui, il a épuisé ses mandats, mais je doute fort s'il persiste et force pour briguer un troisième mandat, c'est qu'il veut se protéger parce qu'il a commis beaucoup de crimes économiques, il a commis beaucoup de crimes humains, donc il a peur d'être rattrapé par la justice et le peuple burundais.
Léonard Nyangoma, ancien chef rebelle burundais et fondateur du CNDD. Au Congo-Brazzaville, nouvelle opération policière Mbata Yabakolo, la gifle des aînés en Lingala, contre les étrangers en situation irrégulière. L'opération est en cours depuis jeudi dernier à Pointe-Noire et a déjà entraîné l'arrestation de 1150 suspects, dont 642 ressortissants de la RDC. D'où des protestations de Kinshasa qui s'étonnent que l'opération anti-clandestin ait lieu sans que Brazzaville en ait informé. On écoute Antoine Boyamba, vice-ministre des Congolais de l'étranger à Kinshasa.
Nous apprenons que certains de nos compatriotes, surtout dans la ville de Pointe-Noire et de Dolisie aussi, sont sujets à des maltraitances. Bon, nous allons convoquer l'ambassade du Congo-Brazzaville ici à Kinshasa pour leur faire part de nos préoccupations. Mais nous gardons l'espoir que tout va s'arranger et nous espérons que tout finira par s'arranger. Mais le mieux, c'est de contacter le gouvernement de la République, nous contacter pour nous dire, voilà, nous voulons mener telle politique. Il y a certains de vos compatriotes qui sont dans le cas et nous allons prendre les dispositions utiles.
Le vice-ministre Antoine Boyamba au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Congo-Brazzaville toujours, le président Denis Sassou Nguesso commence aujourd'hui des consultations sur la vie de la nation et de l'État. Un dialogue avec les forces vives du pays, qualifié par l'opposition de manœuvre pour modifier la constitution et rester au pouvoir après 31 ans de règne. Les opposants refusent d'y participer.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Bénin, Adrien Ngbeji, principal adversaire du chef de l'État Thomas Boni Yayi à la dernière élection présidentielle, élu aujourd'hui président de l'Assemblée nationale béninoise avec 42 voix sur 83. C'est ce qu'annonce l'AFP en soulignant que le vote qui a opposé Ngbeji à Komi Koche, le candidat de Thomas Boniyai, a été très très serré. Le perdant a obtenu 41 voix. En Guinée, c'est aujourd'hui que doit avoir lieu la rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition, Sélo Dalein Diallo. L'enjeu de leur discussion, le calendrier électoral et la présidentielle du 11 octobre prochain. L'opposition accuse le pouvoir de violer l'accord de 2013, prévoyant les élections communales avant le scrutin présidentiel. Mais le président Condé, lui, s'en tient au chronogramme publié par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui fixe la présidentielle en octobre et les communales l'année prochaine. Le point de vue du politologue guinéen Alpha Oumar Sy Savané, joint à Conakry par Timothée Donangmaï.
On parle d'élections locales, mais on oublie royalement que pendant la période dans laquelle cette élection devrait se tenir, il y a eu ce qu'on appelle un cas de force majeure. Cet événement meurtrier, c'est Ebola. Donc j'estime, à mon humble avis, que si la commission électorale indépendante propose de faire les élections présidentielles avant les élections communales, à mon humble avis, je ne vois pas de contradiction vis-à-vis de la loi. Parce que tout comme fait, la CENI est indépendante. Et dans la CENI, je me permets de vous le rappeler, il y a les représentants légaux des partis politiques qui descendent dans la rue proclamer ceci ou cela.
Où se situe le blocage dans ce cas?
L'opposition veut les élections à la base, ce qu'on appelle les districts, les communes, etc., etc. Donc, l'opposition estime que les responsables qui sont à la base sont d'obédience gouvernementale. Alors, l'opposition exige qu'il y ait des élections où elle pourra avoir aussi des espaces géographiques, ce qui permettrait, à son avis, d'avoir une élection présidentielle crédible.
Est-ce que ce n'est pas une considération légitime?
C'est une considération légitime pour un parti. C'est pourquoi elle est descendue dans la rue. C'est la raison pour laquelle aussi j'estime que le président de la République a reçu le chef de file de l'opposition pour discuter et trouver un terrain d'entente.
Le politologue guinéen Alpha Oumar Sy Savané, joint à Conakry par Timothée Donangmaï. Au Niger, la société civile monte au créneau pour obtenir la libération de Moussa Tchangari, le leader d'Alternative Espace Citoyen, détenu depuis lundi dans les locaux de la brigade antiterroriste à Niamey, sans aucune explication de la part de la justice nigérienne. Moussa Tchangari avait récemment critiqué la situation humanitaire dans le sud-est du pays, où les forces armées nationales combattent les islamistes nigérians de Boko Haram. On écoute Ibrahim Yori de la société civile nigérienne.
Nous, acteurs et organisations de la société civile nigérienne, exigeons la libération sans condition et sans délai du camarade Moussa Tchangari et toutes les personnes arbitrairement arrêtées. Condamnons la tendance démocraticide du moribond gouvernement de la 5e République de plus en plus visible. Lançons un appel vibrant à une mobilisation générale pour stopper net la dérive autoritaire de ce gouvernement moribond, notoirement incapable d'accéder aux revendications légitimes du peuple nigérien.
Ibrahim Yori de la société civile nigérienne. Et puis, la guerre contre le groupe État islamique en Irak, le président Barack Obama a réaffirmé mardi le ferme soutien des États-Unis au plan de Bagdad de reconquérir la ville de Ramadi. Écoutons Jean-Roger Bion.
Selon le colonel Stephen Warren, porte-parole du Pentagone, reprendre la capitale de la province d'Anbar est devenu un plus grand défi parce que les forces de sécurité irakiennes ont laissé derrière une vaste gamme d'équipements militaires américains quand elles ont fui dimanche plutôt que d'affronter les combattants de l'État islamique. La chute de Ramadi a valu de vives critiques au président Barack Obama et à sa politique en Irak qui inclut des frappes aériennes contre les militants du groupe État islamique, mais pas d'engagement de troupes américaines au sol pour aider les Irakiens. Pour citer le républicain John Boehner, président de la Chambre des représentants, le plan du président ne marche pas. Il est temps qu'il propose une stratégie globale pour éliminer cette menace terroriste. Mais le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a renvoyé la balle au Congrès. Que contrôlent les républicains pour n'avoir pas donné au président Obama la nouvelle autorisation qu'il a réclamée pour faire face au groupe État islamique?
Soyez au cœur de l'info.